sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
Une émission de bidouilles sonores,
de bruits chelous,
de fonds thématiques
et de formes ludiques,
d'écriture plurielle.
D'écriture plurielle. Une émission qui fait
des nœuds. Une émission qui fait des nœuds.
Qui s'en mêle.
Qui s'en mêle.
Qui démêle.
Qui démêle.
Qui s'en mêle.
Au gré du mistral.
Une émission de haute voltage, fréquence. Une émission de création sonore.
Une heure de tout et de rien.
Tous les deuxièmes dimanches du mois.
De 20h à 21h.
Par des transpédéguines.
Ou des postes queer un peu timbrés. Sur Radio Galère, 88.4 FM.
Et en DAB+.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
Et bonsoir, dimanche 8 décembre, il est 20h09, vous l'avez compris, vous êtes sur Radio Galère 88.4 FM Marseille et on est aussi en streaming sur radiogalère.org. Et ce soir dans Sur le fil, on essaye de mettre les pieds dans le plat sans se faire prendre les mains dans le sac.
Et oui, on s'est emballé, on est dépassé. D'habitude, comme thème, on choisit un mot, chaleur, cycle, évasion, amour, voire un bruit, boum, toc. Et cette fois, on a voulu explorer les expressions, être prise les mains dans le sac, essayer en loose day, en soum-soum, ou mettre les pieds dans le plat, y aller frontalement. Mais au final, on a surtout gardé des pieds et des mains.
Fait à la main, on parlera de fanzine avec une interview de Nelly Slim à propos de la publication du recueil « It's been lovely, but I have a scream now ». To scream, I have to scream. Et on parlera de broderie avec une interview de Jackie qui est avec nous en studio. Salut.
Hello.
Alors les mains et les pieds, c'est aussi le point levé, rester debout, tenir sur ses pieds.
Et pour commencer un petit jeu, quelle expression reconnaîtrez-vous dans ce son? Alors, main dans le sac ou pied dans le plat?
Bah moi je dirais y aller avec le dos de la cuillère, mais je sais pas.
Ah.
Après les ploufs...
Plonger à deux pieds?
Ah ouais. Attends, c'est quoi déjà l'expression?
Pied dans le sac, course en sac.
Ouais.
À demain.
Je suis nulle en expression français. Déjà en anglais c'est difficile, alors...
Ah mais tu peux reconnaître une expression en anglais.
En anglais Non, même pas.
On peut avoir un indice?
Bah non, mais c'est un peu ce que vous voulez. C'est un truc dans une assiette, dans un plat. Voilà. Non, mais c'était non. Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, ouais, c'est ça.
Ah,
maintenant,
ouais.
Je me mélange avec toutes les expressions, les mains dans le plat, les
mains dans la vaisselle.
Dans le... Ouais. Voilà.
Un grand plat où il y a comme la mer dedans et ça fait des gros ploufs.
Un grand plat de pieds.
Cool. Bon, alors on va commencer cette émission en écoutant une histoire que Haroun veut nous partager. C'est la rencontre avec quelqu'un qui fabrique des trucs à quatre mains.
Il y a quelques jours, j'étais à la présentation de l'anthologie d'un zine féministe et queer
It's been lovely, but I have to scream now. Un zine fabriqué à quatre mains par Marcia Burnier et Nelly Slim. J'ai posé quelques questions à Nelly sur l'existence de ce fanzine.
Le fanzine It's Been Lovely But I Have to Scream Now, c'est un fanzine qui est né en janvier 2017 et que nous avons créé avec mon amie et autrice Marcia Burnier. Le fanzine, en fait, ce qu'il avait de particulier, c'est que c'était un fanzine littéraire, queer et féministe. Donc, c'est-à-dire que on avait une direction claire qui était qu'on voulait publier, proposer une plateforme de publication pour des personnes plutôt, voilà, on va dire dans nos milieux, dans nos milieux et dans nos réseaux queer et féministes, avec l'idée que l'accès à la publication était très clairement pour nous et pour de ce qu'on observait limité. Pour les personnes qui ne sont pas des mecs cis, et des mecs cis hétéros a fortiori. Et donc, du coup, voilà, nous, on a voulu créer un média, en fait, enfin, une espèce de plateforme pour pouvoir diffuser des textes. Et avec la particularité qu'on voulait que ce soit des textes qui ne soient pas théoriques, parce que du coup, ce qui nous semblait à l'époque, c'est que ben, les textes. De femmes et ou queer qui accédaient à la publication étaient des textes théoriques du type Judith Butler ou enfin voilà, mais que en fait des textes littéraires ou des textes poétiques etc. Bah finalement il y avait bien moins de possibilités de publication. On parle là d'un moment qui était avant MeToo, avant l'existence de maisons d'édition comme je sais pas moi comme Blast, comme Hystérique et Associés. Avant que la collection Sorcière publie des romans. Donc, en fait, on était vraiment dans un paysage qui n'était pas très favorable, on va dire, et, ou en tout cas juste où les textes en fait, des meufs et, ou des queers n'existaient pas ou peu. Voilà. Du coup, ce fanzine, il a existé pendant 2 ans et demi. Au départ, c'était sur un rythme mensuel, donc une fois par mois, on le sortait. En tout, on a publié plus de 45 auteurs et autrices, ce qui est chouette, enfin, c'est un bon nombre. On a tout fait à la main. Et donc, c'était un mélange de textes et de découpage, d'images, de déco. Voilà, c'était des choses très DIY, assumées, quoi. La fabrication de ce fanzine, elle a été très clairement artisanale, amatrice, avec une envie vraiment de fabriquer un fanzine comme nous, on a été très nourris par notamment des pratiques DIY du féminisme et des punks féministes. Riot Girls, notamment en Amérique du Nord, qu'on a pas mal vu dans les années 90, etc. Et nous, on était beaucoup nourris par cet imaginaire-là. Et donc, c'était important pour nous que fabriquer un fanzine, ce soit avec les moyens du bord, que ça soit une publication accessible, donc quelque chose qui circule facilement, où il y ait un truc de pouvoir se le passer main à main et que ce soit photocopiable. Enfin, voilà, quelque chose, un objet... facile à se procurer et du coup, forcément, pour qu'il soit accessible, bah, aussi peu onéreux en termes de production. Et donc, il y a toute l'idée de vraiment faire avec nos propres connaissances et avec l'idée qu'en fait, on sait déjà faire plein de choses et qu'on est capable, avec même sans être des pros du graphisme ou des pros voilà, de ce genre de pratique-là, qu'on est capable de produire des choses qui sont de la contre-culture, quoi, alternative au modèle dominant. La fabrication, effectivement, elle a été très liée au fait qu'on avait des contraintes matérielles, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun budget, on n'avait pas d'argent, et que, à part écrire, on ne savait pas faire grand-chose d'autre. Et donc, du coup, ça a été de prendre des feuilles A4, de les plier en deux, et d'essayer de comprendre. En fait, il y a eu tout un moment d'apprentissage et d'expérimentation aussi, de comprendre comment on fait un fanzine. Donc, du coup... je sais pas, faire un chemin de fer, comprendre tous les trucs de pagination... choisir l'ordre des textes qu'on avait. Et même pour ça, d'ailleurs, au départ, on publiait, dans le premier fanzine, on publiait mes textes et ceux de Marcia. Et puis, on avait demandé à une copine, Sandra Calderan aussi, de nous filer des textes. Et puis, petit à petit, en fait, on a commencé à demander de plus en plus loin à des gens qu'on connaissait moins. jusqu'à créer une adresse mail, faire vraiment une communication dédiée qui faisait qu'il y avait des gens qu'on ne connaissait pas, en fait, qui nous envoyaient des textes. Mais ça a pris du temps sur les 2 ans et demi à arriver. Au départ, on était vraiment voilà, 3-4 personnes, des copines, des copains. Et ça a vraiment grandi petit à petit au rythme aussi de ce qu'on a appris et de nos expériences avec ce média-là du fanzine, quoi. D'abord, on a commencé par le diffuser sur Internet, puisque c'était la seule plateforme qu'on connaissait. Donc, il a commencé à tourner. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, que des gens ont commencé à nous en parler, à nous faire des compliments là-dessus, qu'on a compris qu'on était lus, en fait. Parce qu'au départ, il n'y avait aucun moyen de savoir qu'on était lus. Sauf qu'on a commencé à nous faire des retours. Et donc, on a compris que sur Internet, bon, bah, ça commençait à tourner. Sauf que bah, nous, dès le départ, la volonté qu'on avait, c'était de créer une publication papier. Et donc, on s'est posé la question de comment on fait pour diffuser cette publication. Et donc, ça a été vraiment un peu quelque chose à tâtons, quoi. On a commencé à s'inscrire pour aller à des événements, à des tables, enfin, tenir des tables à des fairs, à des foires, fanzines fairs, là, des foires de fanzines, à des salons, dans des événements. On le prenait avec nous et on le déposait dans des lieux collectifs par lesquels on passait, dans des squats. Et puis, on a commencé petit à petit à démarcher des librairies aussi. Et donc, du coup, bah, on le déposait dans les librairies, ce qui a aussi posé la question du prix, puisque du coup, bah, quand on était dans des foires de fanzines, dans des événements, on les vendait prix libre. En librairie, c'était pas possible. Donc, du coup, il a fallu se poser pour réfléchir aussi à quel prix on voulait mettre, ce qui nous paraissait extrêmement compliqué, parce que nous, on était dans un système de débrouille où on essayait de payer le moins possible et on n'avait absolument pas à ce moment-là de réflexion sur le travail créatif, en fait, sur le fait que c'est aussi un travail avec des rémunérations. Et donc, du coup, nous, je me souviens encore, on était à Violette & Co. et les libraires nous ont demandé combien on voulait le vendre et on était là un peu en PLS, en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Quel prix on fixe? On se sentait un peu comme des impostrices. En mode, bah non, mais... Et du coup, on a fini par... en fait, 1 euro, on s'est dit, c'est quand même un peu trop peu. Enfin, c'est 3 euros, ça nous paraissait vraiment trop haut. Du coup, on a dit 2 euros, mais vraiment au hasard. Clairement, on n'avait aucune idée de comment fixer un prix, quoi. Donc, voilà. Et du coup, je dirais que ce rapport-là, effectivement, à la création d'un objet littéraire, etc., c'est très particulier parce que du coup, il y a un truc un peu de avoir aucune idée de à quel point c'est diffusé, de qui le lit. Il y a un truc un peu volatile à cet endroit-là, je trouve, et en même temps très vivant, parce qu'effectivement, on parle aux gens, il y a quelque chose de très direct, mais c'est assez surprenant, quoi. Des fois, des gens que tu n'as jamais rencontrés de ta life qui te disent « Ah mais oui, mais toi, mais complètement, tu as écrit ce texte dans le fanzine, je l'ai lu dans les toilettes d'une pote, qui ça traînait là, etc. » Et puis voilà, ça m'est resté dans la tête. Il y a un côté très, très spontané, quoi, et très direct, que moi, j'affectionne particulièrement, que je trouve très beau, et qui donne un peu le tournis aussi, pour de vrai. Parce qu'il y a aussi un côté où, du coup, ben, voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a des textes de 2017-2018 qui tournent, que j'ai écrits, enfin, en plus, avec quelque chose de très intime. Enfin, le format fanzine, il a fait qu'on a mis très peu de barrières sur le partage de nos intimes. On a parlé de choses très personnelles, en fait, dans nos textes. Là, je me dis, mais waouh, mais oh, des gens aujourd'hui qui tombent sur ces textes-là, enfin, c'est très particulier, quoi.
Pour finir sur le thème main de cette interview de fanzine, je vous lis un extrait de « It's been lovely, but I have to scream now », un texte d'Anna qui parle de main. « Et ne reste alors sur mes mains que ces îles nacrées de peau brûlée. Chant secret. Entends mon chant secret. Les arbres ont rebourgeonné. Et maintenant, surprenamment, à la manière dont ton corps absorbe mes mains, elles fondent dedans comme dans du baume. Je sens que tu les soignes. Ta peau les imprègne. Je sens que tu soignes. Ton corps résorbe ma brûlure. Je fonds dedans. Les îles sur mes mains. Un archipel inondé de peau. Amené à disparaître. Loachara. Naapenlod. Kepido en Pelang. Rapita. Reana. Kabasgadi. Koenzand. Stuyvesant, Ilan et Bitich, Tebua Tarawa, Billingsgate ont bien été englouties, elles. Dieu me préserve du destin de Mururoa. Chaque île a son nom, ses populations, ses croyances. Chaque île a son histoire, ses langues, ses recoins. ses architectures et ses paysages. Les plus belles sont celles sur les annulaires. Signe de mon imprudence, de ma naïveté, de ma joie aveugle, à travailler à tes côtés, dans ta chaleur qui ne me brûle pas, vont-elles disparaître ?
C'était donc une interview de Nelly Slim à propos du fanzine It's Been Lovely But I Have to Scream Now, suivie d'une lecture d'un texte du fanzine et de l'anthologie du même nom, aux éditions Cambourakis.
Et on enchaîne tout de suite avec le morceau Footloose, extrait du film du même nom, où, je ne sais pas, pour les personnes qui l'ont vu, beaucoup de gens dansent. Et donc, c'est interprété par Kenny Loggins parce qu'on est dans Sur le fil et notre émission est un peu les pieds dans le plat, main dans le sac. Bon, les pieds, quoi.
Vous avez des anecdotes à nous partager d'histoires de mains dans le sac autour de ce plateau?
Ben, moi, je peux vous raconter mon coming out avec mes parents.
Wow.
Moi, je suis PD et quand j'étais ado, jeune adulte, c'était un des enjeux. Je ne savais pas comment le dire à mes parents. Mais je continue ma vie par ailleurs et donc j'avais un copain. Après, à un moment, on habitait ensemble. Et après, mes parents, à un moment, ils sont venus, ils sont passés. On n'habitait pas dans la même ville, ils sont passés dans la ville en vacances. Et donc, je leur ai proposé qu'ils viennent. On avait passé tout l'après-midi à se balader ensemble dans la ville, tout ça, dehors. Puis à la fin, c'était convenu qu'ils viennent dans l'appartement pour visiter mon nouvel appartement avec mon coloc. Et puis juste 5 minutes avant qu'on rentre dans l'appart, j'aurais dit « Bon, mais en fait, mon coloc, c'est pas mon coloc, c'est mon copain. » Et comme ça, ils sont venus. Ils ont vu, il y avait une chambre, un salon, et ils ont rencontré mon coloc qui était mon copain. Et tout le monde s'est rencontré de manière très, très cordiale. Et donc, je m'étais arrangé pour me faire prendre la main dans le sac des pieds dans le plat. Parce que je ne sais pas comment faire autrement.
Cool, bah, efficace en tout cas.
Ah ben oui.
Pas le choix.
Compris. Ils ont bien compris. Oui.
D'autres anecdotes de main dans le sac?
Et toi peut-être?
Moi, je me suis souvenu d'un truc, mais c'est plus au premier degré. Quand je bossais en boulangerie, j'aimais trop mettre mes mains dans le sac de farine de riz, parce que c'est une texture vraiment spéciale. C'est pas la même que la farine de blé. Et du coup, en fait, très souvent, quand je travaillais, je mettais toujours mes mains dans ce sac de farine de riz, là. Et un jour, il y a mon boss qui est passé et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dû juste...
C'est ton petit kink, quoi.
Ouais. Ça va, c'était... On était quand même en boulange, c'était pas complètement hors sujet. Voilà, les mains dans le sac de farine. Jackie, toi, une histoire de mains dans le sac, alors ?
Non, je crois pas. À part des sacs de mon fabrication, mais c'est pas... C'est dedans, dehors, c'est pas spécialement dans le sac.
Mm.
C'est autour...
Ah, un peu d'audio description.
Elle mime un sac de forme sphérique avec les deux mains qui tournent.
Et un anse. Oui, voilà. Bon, des poches, peut-être. J'aime bien les poches.
Mm.
J'ai fait des poches dans tous mes vêtements qui n'ont pas de poche. C'est pas vraiment des mains dans le sac, c'est des mains dans les poches.
Ah ouais. Ok, oui, parce que quand même, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui, c'est que tu fais de la broderie, tu fais des trucs incroyables avec tes mains.
Merci.
Pas que d'ailleurs, enfin, je sais peut-être pas tout, mais...
En général, j'ai fait des broderies avec mes mains.
Et en tout cas, moi je les ai découverts au Festival Transform il y a un mois de ça, un mois et demi, où c'était un festival avec plein de spectacles... queer, en théâtre, en danse, etc. Et puis il y avait aussi des ateliers un peu DIY et il y avait des ateliers autour de la broderie avec toi. Et dans la pièce, le hall du festival, là, moi je me souviens très bien de rentrer dans cette pièce et de là de voir accrocher partout autour de moi des grandes broderies suspendues, des tout petits dessins et après des très grands trucs. Enfin, j'avais l'impression de rentrer dans un monde plein d'histoires parce que toutes tes broderies, on dirait que c'est tout plein de petites histoires. Enfin, bref, moi, j'ai adoré. Et du coup, quand on a parlé de faire cette émission pieds et mains, tout ça, on réfléchissait aussi du coup, au travail artisanal, comme là, on entendait sur le fanzine, et les trucs qu'on fabrique un peu avec nos mains. Et voilà, avec pas trop de choses, on fait des trucs un peu foufou et ça donnait envie de t'inviter. Du coup, déjà, merci d'être là.
Merci. Ça me fait super plaisir que ça t'a plu d'expo parce que, en fait, je fabrique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais ils sont empilés chez moi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour que les personnes puissent les voir. Donc, le fait que ça raconte des histoires, ça me plaît aussi. Ça me plaît beaucoup. Les ateliers broderie, c'était les premières fois que j'avais animé un atelier. Donc, j'étais presque malade avant parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai à apprendre aux gens? Et en fait, tout le monde qui sont venus, ils ont beaucoup dit qu'ils ne savaient pas comment faire. Donc, ils ne savaient pas enfiler une aiguille, ils ne savaient pas faire des trucs manuels. Il y avait certaines personnes qui n'avaient jamais cousu. Donc, jamais utilisé leurs mains pour coudre, qui est étranger à moi parce que j'ai toujours fait ça. Donc, mais c'était super. C'était des ateliers, c'était vraiment, vraiment chouette.
Et tu as toujours fait ça parce que c'est quoi ce que tu fais en fait? Tu peux nous expliquer toi ce que tu
je
fais?
Je couds.
Ouais.
J'utilise du tissu, du textile en général. Ça peut être de la laine, mais récemment c'est plutôt de lin, du coton, des vieilles draps en fait. Que je chope dans les friperies, Emmaüs, des trucs comme ça. Même si Emmaüs, ça commence à être cher, ils ont découvert des valeurs du lin, donc c'est beaucoup trop cher maintenant. Donc je vais dans les vides-greniers, Je prends des vieux draps, je les déchire et je couds avec soit mes mains, soit avec des machines. Bon, ça c'est avec mes mains aussi, mais avec des machines à coudre, si on peut enlever des griffes qui sont en dessous et ça permet de passer des tissus dans tous les sens. On peut passer, on n'a pas besoin de juste d'aller en avant. Donc on peut tirer des tissus dans tous les sens et ça s'appelle du piqué libre. Free motion embroidery en anglais. Voilà, donc ça permet, c'est un peu comme si on dessine avec un stylo, mais on bouge de papier au lieu de bouger de stylo.
Ah ouais. Ok, ah oui, la métaphore permet de voir le truc.
Voilà.
Et peut-être quand même, pour que les Marseillais et les Marseillaises peuvent avoir une idée, ont peut-être déjà vu ce que tu fabriques à Sing or Die.
Oui, aussi. Ça, c'est...
Si tu veux en dire un peu plus.
Bah, du coup, c'est des costumes et des masques parce que un de mes autres passions, c'est le karaoké. Et du coup, on a créé Sing or Die Karaoké avec Lionel. Et pour ça, la spécialité de notre karaoké, c'est qu'on est toujours déguisés. Donc, je fabrique les costumes et j'aime bien changer de costume à chaque fois. Bon, maintenant, j'en ai plein. Je dois en avoir beaucoup partout chez moi. J'en ai beaucoup, voilà, que j'ai fabriqué. Et j'utilise aussi des piquets libres avec des machines à coudre pour faire, j'appelle ça, des armures molles pour des gens durs. Parce que... voilà, donc ça, c'est une partie des costumes. Et après, il y a plein de masques et des trucs différents.
Ok. Et les broderies, comment tu t'es mis à faire ces broderies qui ne sont pas des costumes, qui sont comme plutôt des petites histoires sur tissu, quoi?
Oui, c'est un peu du... En fait, ça a commencé avec des rêves. J'ai illustré mes rêves. Donc, j'ai une forte vie la nuit de rêves que je note depuis 1998. Un autre siècle. Wow. Voilà, donc j'ai des notes tous les matins quand je me réveille et j'ai commencé à faire des dessins avec la machine. D'abord, c'était pour me lâcher parce que j'étais énervée, donc j'ai pris la machine et j'ai appuyé à fond sur le pédale et j'ai tiré le tissu. Ça, c'était mon premier broderie à la machine. J'ai cassé peut-être 2 ou 3 machines avant de savoir qu'on pouvait enlever les griffes. Voilà. Et après, pendant le confinement, le premier confinement en 2020, j'ai eu du temps. Donc, j'ai découvert le projet de 100 jours sur Instagram. Et le principe, c'est de faire ce qu'on veut. On choisit ce qu'on veut. Ça peut être un tableau, une histoire, une poésie, une photo, ce qu'on veut, mais on le fait pendant 100 jours sans s'arrêter et on le publie sur Instagram. Et le but, c'est d'avancer notre travail et arrêter de penser aux ratures ou failure. Il n'y a pas de... C'est pour démystifier le travail et rentrer plus dans ce qui nous plaît. Et ben, j'ai fait ça pendant 100 jours et c'était super. Et donc, j'ai pas arrêté depuis.
100 jours de broderie.
100 jours de broderie. Après 35, je crois que j'ai pleuré. J'étais là, mais pourquoi je fais ça? Je peux pas continuer. C'est à moi quand même. 30 et quelques jours. Et du coup, il restait encore 2 mois derrière. Mais j'ai vraiment vu une différence de début de comment je faisais. C'est vraiment rentré dans mes mains, en fait, des techniques, c'est rentré dans les mains et dans les yeux parce que je dessine pas sur le tissu avant. Je dessine directement avec des machines.
Et parce que avant de commencer, tu faisais déjà de la couture avec la machine et sur la machine, mais tu faisais pas encore ces projets-là de dessin en couture, c'est ça?
Exactement. Je faisais un peu des costumes, parce que j'ai travaillé un peu dans le spectacle de rue. Du coup, on pauvre, donc on faisait tout. Des costumes, des décors, des personnages, des histoires, tout. Donc, mais j'ai toujours cousu, en fait, depuis que je suis petite.
mes grand-mères, elles cousaient, mais tout le monde cousait. Et ils tricotaient, ils fabriquaient des trucs. La vie à la campagne. Mmh. Yeah.
Donc il y avait déjà ce truc de faire un truc avec ses mains, quoi.
Oui, carrément.
Mmh. Ok.
Très, très manuel.
Ok. Et moi, il y a cette broderie que j'ai vachement aimée à ton expo. On en parlait tout à l'heure, où une personne qui est sous un grand parapluie et elle a un grand manteau et il y a plein de gouttes de pluie tout autour d'elle. Et elle a un regard un peu sidéré. Enfin, voilà, c'est pas une broderie très joyeuse, mais elle m'a marqué fort dans, je sais pas, l'expression du visage et tout ça. Et du coup, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu celle-là, d'où elle sort et qu'est-ce qu'elle raconte ?
Oui, bah c'est moi, en fait, cette personnage qui donne la pluie, qui est protégée de la pluie par son parapluie, mais qui pleure, donc qui est quand même dans l'eau. Et ça sort tous les mois de novembre. Je fais une broderie par jour. Donc, des fois, c'est avec la machine, des fois, c'est à la main. Mais ça, c'est depuis le deuxième confinement, qui était en novembre 2020. Et j'aime pas le mois de novembre. Donc, je me suis dit, je vais pas rester enfermée chez moi sans un projet qui me change les idées. Donc, j'ai fait une broderie par jour, mais là c'était j'avais pris un drap que j'ai déchiré en 30 pour chaque jour, et c'était celle qui était à l'expo, qui était suspendue, qui maintenant j'ai recousu ensemble. Il est énorme, mais du coup on voyait des dos et des devants. Et depuis ça, chaque année en novembre, c'est devenu un peu une obsession. Je fais un dessin par jour, donc c'est mes expériences et ce qui se passe dans les journaux des infos, merci. Donc c'est un peu des infos, comment ça m'influence, ce que j'ai vécu dans la journée. Bon, il y a plein de jours où il n'y a pas grand-chose qui se passe, du coup c'est un peu ennuyant. Et ce jour-là, c'était l'année dernière, en novembre, donc... C'était juste après octobre, donc le 7 octobre, le fameux 7 octobre. Et donc, les broderies de ce mois de novembre, ils étaient super influencés par la Palestine, en fait. Bon, voilà, je me suis trouvée en train de pleurer dans la pluie. Donc, j'ai dessiné, voilà.
C'est vrai que tu as aussi plein d'autres broderies de représentations, de luttes... de militants palestiniens ou de... Enfin, il y a plein de choses reliées à la Palestine. C'est un truc que tu mets beaucoup dans la broderie.
Oui, c'est une façon... Parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas regarder parce que c'est dur. Et je comprends. Mais moi, j'ai besoin de regarder parce que j'ai besoin de dire que j'ai vu et peut voir en parler. Je pense que c'est super important d'en parler et... C'est plus facile pour moi de parler par la broderie que d'aller parler à quelqu'un en vrai, en fait. Et je pense que ça aussi, ça touche des personnes qui ne peuvent pas regarder les vidéos, par exemple, parce que c'est vraiment super horrible. Mais s'ils regardent une représentation de ce qui se passe, en fait, ça permet de le regarder avec un petit peu de distance. Mais il y a quand même des fêtes, on arrive quand même à voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est depuis l'année dernière, je fais plus trop des rêves, j'ai écrit encore mes rêves, mais je brode que des trucs. C'est un peu comme si je enregistre ce qui s'est en train de passer, et c'est ma façon de pas le garder dans ma tête aussi, parce que c'est... Je ne veux pas avoir ça dans la tête à tout moment de la journée, voilà.
Ok. Merci pour ce premier partage. Est-ce qu'on se fait une petite pause et une petite pause
carrément musicale ? On écoute Mortiba, de ton choix.
Allez, parce que ça s'appelait « In the Hands of the Gods ».
Allez, go.
Piss, 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 piss I'm the drunk dance rocker, but don't drink vodka. Never sang a song called Velvet Shaka. Rap rhyme schooler, pole position ruler. In seventh grade I had a teacher named Mr. Dula. I'm very unique and you will agree. One in a million like Muhammad and Aliyah. A self-believer, an overachiever. Had more stunts than Colonel Sievers. Ain't no other like B-I-Z-M-A-R-K-I with the E. Hang at the rucker, got a Hummer trucker. Wouldn't trade the beefy boy cause I'm no sucker. I'll be bouncing like a ball when I say yes, y'all. If you don't rock with me, you won't rock at all. So check me out without no doubt. I guarantee to rock and turn the party out. We're gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad. We're gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad. I'm on like popcorn, like a Saturday night at the Autobahn. To the brother, ain't the one to commence with the man with the plan with the most finesse. I make you scream and I make you dance. I'm guaranteed to rock the mic and put you all in a trance. So listen to the brother, ain't no other can stutter or runner and runner and rock that MC butter. The man to do the upper 1-2 or I rock with you. So listen to me, cause I'm the original B-I-C-M-A, okay, I was the E. I guarantee to rock and turn the party out.
Alors après cette première partie plutôt main d'interview, on voudrait faire une partie pied et on avait envie de la commencer avec nos anecdotes autour de cette histoire de pied dans le plat. Il y en a qui ont des histoires à raconter avec ça ?
Moi j'ai déjà tout dit. Hein.
Non.
Bah alors.
Non, mais je peux revenir sur les mains sinon, mais.
Ah, allez, allez.
Mais c'est parce que j'ai tourné. En fait, il y en a plein, mais j'ose pas trop les dire à l'antenne. Du coup, je peux garder une un peu. Bon, je sais pas si elle est rigolote, mais en tout cas de mon adolescence. Que comme mon rêve secret était de devenir disquaire, je faisais beaucoup de babysitting pour me faire de l'argent et aussi m'acheter des CD. Et j'avais des voisins très très riches, du coup j'aimais beaucoup aller faire du babysitting là-bas parce qu'ils avaient une très très grande maison et me donnaient beaucoup d'argent. Et il restait très très tard le soir. Et cette maison était vraiment incroyable, il y avait un billard, il y avait... plein de trucs hyper chouettes que quand t'es ado et que t'as pas ça, t'es un peu en kiff. Mais du coup, j'avais envie d'inviter mes potes et mon frère. Et un jour, j'ai fait ça, j'ai invité mon frère et un autre pote. Et le problème, c'est qu'on s'est endormi et j'ai entendu la porte quand il rentrait. Du coup, dans le speed et dans le stress, j'ai voulu les cacher, cacher mes potes. Et les voisins, mes voisins riches sont arrivés au moment où j'étais en train de mettre un manteau sur mon frère pour faire comme si c'était un porte-manteau. Ce qui n'a pas marché du tout. Voilà.
Et il s'est passé quoi après ?
Bah après, eux, ils étaient complètement bourrés et complètement cons. Du coup, ils m'ont convoqué le lendemain en me faisant une espèce de, je sais pas, de, tu sais, nous aussi, on a été adolescents, mais l'important, c'est la confiance, nanana, blablabla. Voilà. Mais j'ai plus jamais réinvité des gens. D'ailleurs, je suis plus trop retournée aller faire du babysitting.
Ah merde. T'as pu t'acheter quand même tous les CD que tu voulais.
Bah, j'ai appris à voler aussi à ce moment-là.
Mais moi, pris
dans
le
main dans le sac, c'est arrivé plusieurs fois. Mais je vais pas les raconter.
D'autres pieds dans le plat ou main dans le sac?
Un pied dans le caca.
Ah, ouais, ça marche aussi. Hein.
J'ai grandi dans une ferme en Écosse et donc il y avait avant que ça soit un peu modernisé, c'était un peu une vieille ferme. Du coup, il y avait toute la merde de vaches qui était dans un gros tas derrière la ferme. Et pour l'emmener de merde de vaches, il y avait des brouettes et pour monter sur le tas, il y avait une planche. Qu'on allait avec des brouettes et vider. Bon, moi, j'étais petite encore. Mais ma sœur et moi, on avait des vélos et on aimait bien aller en haut de ces planches et partir en haut de la planche et y revenir parce qu'on n'avait plus besoin de pédaler. Mais un jour, je suis allée trop loin et je suis tombée. Bah, c'est plus que des pieds d'ailleurs, c'est jusqu'à la taille dans le merde de vache. Et j'ai crié, j'ai pleuré. Je me souviens encore quand j'ai pleuré. Je ne voulais pas me toucher moi-même. Et mon père, il m'a pris, il m'a mis dans un baignoir qu'il y avait pour des vaches pour qu'ils boivent. Et je me suis dit, bah, tiens, ce n'est pas si mauvais qu'on est dans l'eau. Dès qu'on est dans l'eau, ça va mieux. Quand on est plein de caca encore, mais dès qu'on est dans l'eau, ça fait un peu... plus propre, voilà. Ça, c'est
littéralement, pas vraiment... littéralement
Bah ouais. Bah moi, j'avais une histoire de... C'était pas de pied dans le plat, mais c'est pied dans la porte. Et je me dis que ça... Bon, je sais pas. Mais c'est un souvenir où je suis un peu fière, parce que c'était une soirée dans une coloc où j'habitais avant. Et il y avait un gars relou, mais vraiment super relou, qui faisait trop chier une copine à moi, qui en avait trop marre et tout, puis en même temps, elle voulait plus s'occuper de lui et tout. Et à un moment, on lui a dit à ce gars, mais en fait, juste dégage, tu fais chier tout le monde et tout. Alors, il voulait pas, il a commencé à s'énerver, tout ça, parce qu'aussi, il voulait pas écouter les meufs qui lui disaient ça. Il voulait négocier avec les mecs de la soirée. Ouais, ce genre de truc vraiment nul.
Classique.
Ouais, mais bon, oui. Mais ce qui était génial, c'est qu'en fait, on a fini par le pousser. Donc, truc de main, vraiment, on a dit, mais tu te casses et tout, on l'a poussé comme ça. Et après, moi, je l'ai vraiment poussé au pied, quoi. Je lui ai foutu des gros coups de pied dans le cul. Et puis, on l'a mis on a sorti de la porte. Et j'ai donné un gros coup de pied dans la porte pour la refermer. Elle a claqué vraiment fort. Et ça a comme, je sais pas, c'était trop bien.
T'as kiffé.
Voilà, c'est trop bien. Ouais,
t'as l'air de
lui,
parce
porte.
Que vous voyez pas quand vous entendez à la radio, mais il y a les mouvements avec.
Ouais, j'ai envie de faire des gros kicks, là. Voilà, c'est cool. C'est un peu comme mettre les pieds dans le plat, en fait, ça fait du bien, des fois.
De mettre les pieds dans le plat.
Ouais.
Tu as les caches.
Mais c'est vrai que toi, Damien, aussi, ton histoire de coming out, elle est à la fois dans pieds dans le plat et main dans le sac, quoi, du coup...
On peut choisir si c'est plutôt pied ou plutôt main, ouais.
Ouais. Des fois, on peut.
Bon, en tout cas, l'idée, c'était de se lancer un peu aussi sur les pieds avec toi, Jackie, sur la broderie, en forêt sur Allier, tout ça.
Les pieds.
Et sans transition, la broderie avec les pieds.
Et en tout cas, tu nous disais que t'aimes vachement dessiner les mains, les pieds. Et aussi les yeux, mais puisque notre thème, c'est plus mains et pieds, est-ce que tu as envie de nous raconter pourquoi ces parties-là, elles te plaisent à dessiner particulièrement? Et on peut partir du pied, du coup.
Du pied. Parce que je pense que c'est compliqué et ça me donne un travail de vie à faire. Je ne serai jamais finie. Les mains et les pieds, les positionnements et... Il y a tout plein de petits os dans les mains et les pieds. Ils ont plein d'os, alors qu'un bras, c'est grand, mais il n'y en a pas beaucoup d'os. Dans un main, c'est plus petit, mais il y en a plein de mini-os. Les pieds, c'est pareil. Du coup, il y a plein de possibilités de mouvement et de position. Et je pense que, ouais, avec les mains, on peut relier des... sentiments ou des postures sans forcément voir le reste du corps. On peut, le langage des signes, c'est aussi, c'est les mains, mais c'est aussi, ça c'est aussi le visage et le corps. Mais il y a quand même, l'autre jour, par exemple, j'ai cherché le... C'est sur les mains encore, c'est pas sur les pieds.
Bah, c'est pas grave.
Le doigt d'honneur, parce que j'ai fait un broderie, c'était un doigt d'honneur. Donc, je voulais savoir d'où ça venait, le droit d'honneur. Et quand je regardais sur Internet, ils montraient plein de signes de main. Donc, il y a des signes de main qu'il ne faut pas faire dans certains pays. C'est mal poli, c'est même des insultes. Voilà, du coup, là, j'ai carrément dévié des pieds.
Mais toutes les expressions qui sont riches aussi dans les mains, quoi.
Ouais, les mains, c'est quand même on les voit beaucoup plus les mains. Les pieds, ils sont dans les chaussures. On les voit quoi, à la plage.
Puis on est quand même. Enfin, moi, j'arrive à faire moins de signes différents avec mes pieds qu'avec mes mains. Je pense à tous les émojis qu'on peut faire avec les mains.
Oui. Enfin,
j'arriverai pas à les faire avec mes pieds.
Non. Mais moi, j'arrive à ramasser des trucs avec mes doigts de pied. Si j'ai la flemme de me baisser pour ramasser... Bon, pas des grosses choses, hein. Des chaussettes, des mouchoirs. Mais ouais, pas des livres, quand même.
Et c'est des éléments qui sont assez présents dans tes broderies. Tu disais que c'était aussi des trucs qu'il y a souvent dans tes rêves, tout ça.
Surtout, des pieds, c'est des chaussures. Des fois, je n'ai pas de chaussures. Des fois, une fois, j'avais des chaussures vert fluo et que tout le monde regardait. Et moi, je les détestais, mais je n'arrivais pas à les enlever. Une autre fois, il y a quelqu'un qui a volé mes chaussures. Donc
mais dans tes rêves ou pour de vrai?
Dans mes rêves, dans mes rêves. Ah, mais une fois, en vrai, je squattais à Londres et mon lit était sur un mezzanine. Je me réveille le matin, je savais que j'avais mis mes bottes au fond de l'échelle, en bas de l'échelle, et ils n'étaient plus là. Et donc, tout le monde, j'ai vécu avec 8 ou 9 autres personnes, ils disaient, mais non, mais tu les as mis quelque part d'autre, tu les as enlevés en bas, tu les as fait je ne sais pas quoi. Du coup, je cherchais partout mes chaussures, ils étaient nulle part, mais nulle part. Et une semaine plus tard, je reçois un petit mot dans la boîte à lettres qui dit « Si tu veux récupérer tes chaussures, viens chez Dave demain à 5 heures. » Dave, c'était le voisin. C'était le gars qui squattait à côté. Et c'était signé Nathalie. Donc, je me dis « Ok, bah, je vais quand même aller chez Dave. » Et j'arrive à 5 heures chez Dave et il m'a dit « Oui, elle est venue, mais elle est venue à 4 heures avec des chaussures et elle est repartie avec. » Donc, je ne les ai pas, eux, mais j'étais quand même contente parce que j'ai dit à tout le monde avec qui je vivais, vous voyez, je ne suis pas devenue folle. J'avais quand même laissé mes chaussures là. Et en fait, elle était montée dans ma chambre pendant que je dormais. Elle a pris mes chaussures et elle est partie.
Wow. Et après,
je ne sais pas. Et après, je l'ai rencontrée des mois après et elle m'a dit, oh, je les ai donnés à un clochard.
OK.
Voilà. Du coup, à ce moment-là, j'avais qu'un paire de chaussures. Donc, j'étais obligée d'emprunter des chaussures à quelqu'un pour aller acheter des autres chaussures. Voilà. Mais ça, ce n'était pas un rêve. Ça, c'est en vrai.
Bah, quelle histoire. Ah oui. Bah, en tout cas, les pieds, ça sert aussi à aller en manif.
Oui.
Voilà. Et puisque la Palestine, c'est très présent dans ton univers et que tu vas souvent, du coup, au rendez-vous du dimanche, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu ces rendez-vous-là dernièrement et puis les prochains à venir, si tu as envie de partager.
Oui, bah, c'est tous les dimanches à 14h, Porte d'Aix. C'est très important d'y aller. Il y a un noyau de personnes que je vois tout le temps. Il y a des autres gens qui viennent et qui s'en vont. Et je pense que c'est très, très important d'y aller et pas oublier cette histoire qui est encore très présente. Et c'est vrai que ça dure longtemps, mais il faut continuer à en parler et il ne faut pas arrêter d'en parler jusqu'à ce que ça s'arrête.
Oui, raison. Bah, moi, je voulais aussi faire un lien avec ça des pieds dans le plat parce que malheureusement, il y a encore besoin de mettre les pieds dans le plat sur que ça ne fait pas évidence à tout le monde, que c'est un massacre, un génocide qui a encore lieu depuis plus d'un an. Et du coup, moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au Singer Day. Donc, il y a un espace pour faire du karaoké et se proposer de la joie. Et moi, ce truc de voir du coup sur scène tes broderies Free Palestine et le drapeau palestinien présent avec nous, c'est précieux, c'est important et je dis c'est mettre les pieds dans le plat, enfin ce qui est quand même flippant, mais voilà, je voulais dire que aussi c'est ce truc de visibiliser encore et encore et ben merci aussi pour le partager dans des espaces aussi de joie. Comme le karaoké, voilà.
Oui, merci. Je pense que c'est très important. C'est un peu délicat aussi. C'est un endroit où on chante, on s'amuse, alors qu'il y a des gens qui vivent carrément le contraire. Mais c'est aussi important qu'on puisse profiter de la vie. C'est qu'on peut. Mais il ne faut pas oublier d'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours... j'ai toujours des colliers brodés Free Palestine. Il y a des drapeaux sur la scène. C'est très présent. Donc, en fait, j'ai toujours un signe sur moi, une badge. Ouais, il y a toujours quelque chose. Voilà.
C'est une manière de faire des pieds et des mains. Tu disais au début que tu ne faisais pas ça. Mais
ah oui,
même.
C'est vrai. Je suis monteuse aussi. des pieds et des mains, oui, j'ai des faits, je pense souvent. Je suis un peu têtue.
En tout cas, on peut aussi voir toutes tes broderies sur ton Insta, Jackie Hamilton, si vous avez envie de découvrir cet univers magnifique.
Oui, c'est Jackie H, Jackie H, Jackie. Ça semble facile à dire, mais quand on le voit écrit, c'est un peu compliqué. Mais Jackie avec C-K-I-E. Pour de pub. Yes.
Ok. Bah, merci beaucoup d'être venu partager ce moment avec nous.
Merci à vous.
Sur le fil. Sur ce fil un petit peu bien emmêlé ce soir.
Décousu. Voilà. Ouais, c'était ça. Sur le fil, sur les pieds, les mains, les pieds dans le plat.
Mais derrière des broderies, ils sont toujours emmêlés.
Et ben voilà.
Et c'est que des fils.
Belle conclusion.
Et on va se quitter avec le point levé.
Carrément.
Avec public. Oh, oui, on retourne en arrière parce que ça marche toujours. Fight the Power de Public Enemy. Et on se retrouve, nous, le mois prochain.
Pied dans le plat et point levé.
Ouais.
Ciao.
Ciao. Bye.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch. Then fight!
Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
Future of Public Enemy got a...